Dans La Voix du Tarot, Jodorowsky propose de dormir chaque nuit avec l'une des 22 arcanes majeures du Tarot de Marseille, dans la tentative de mieux les comprendre. Ainsi, on dormira par exemple avec le Diable, la Tempérance, la Lune, le Soleil ou la Force. Lors d'une discussion sur l'amour des livres avec ma mère libraire, elle m'a raconté que petite, elle promenait ses livres dans une poussette à la place des poupées, comme si ses livres étaient ses enfants. Pendant longtemps, j'ai dormi avec mes livres. J'en lisais plusieurs à la fois, et au moment de m'endormir, je les laissais entrouverts à côté de moi, sous le duvet ou contre moi. Par envie de mieux les comprendre, ou dans l'espoir que tout ce savoir pourrait rentrer en moi pendant la nuit et me rendre comme meilleur, mais aussi comme s'il veillait sur moi en m'apportant de la tendresse. J'ai sélectionné 15 livres qui m'ont accompagné dans mes nuits, la guérison, l'envie de soins, et qui m'ont marqué tant émotionnellement que artistiquement. Je vous propose des extraits de ces 15 livres dans l'ordre suivant. Aline, de Charles-Ferdinand Ramu. La cloche de détresse, de Sylvia Plath. Purifier, de Sarah Kane. Slogan, de Maria Soudaïeva. The Passionate Mistakes and Intricate Corruption of One Girl in America, de Michel T. Le Mausolée des Amants, d'Hervé Guibert. Nicolas Page, de Guillaume Dustan. Aliens and Anorexia, de Chris Krauss. La Pesanteur et la Grâce, de Simone Weil. L'eau et les rêves, de Gaston Bachelard. Journal du cancer, d'Audrey Lord. Le langage inclusif, pourquoi, comment, d'Eliane Vienno. Le ventre des femmes, Françoise Vergès. Paradis, de Toni Morrison. Et enfin, Un autre pays, de James Baldwin. Quelquefois seulement, une des dormeuses se mettait à souffler plus fort, accoudée sur la table, le front dans ses mains. Un papillon de nuit, attiré par la flamme, frôlait l'abat-jour, où le vent passait dans les arbres. Puis l'aube, s'étant levée sur la colline, descendit se mirer aux fontaines. Les bois s'ouvraient devant elle, l'air frissonnait sous ses pas. Une petite flamme trembla vers l'orient. Des banderoles roses flottaient au sommet des sapins. Et l'espérance nouvelle, poussant la porte des maisons, souriait debout sur le seuil, pendant que, dans la chambre, la lampe achevait de s'éteindre et que les femmes s'éveillaient. Oui, c'est quand même drôle de vivre. Voilà comme qui dirait, on commence, et puis on va vers le milieu, et puis on finit. Et quand on a fini, c'est bien la même chose que si on n'avait pas commencé. J'avais l'impression que mes nerfs fumaient, comme les grilles sur la route saturée de chaleur. Tout le paysage, la plage, l'arrière-pays, la mer et le rocher tremblotaient devant mes yeux comme un décor de théâtre. Je me demandais à quel endroit de l'espace le bleu stupide et factice du ciel virait au noir. Il me semblait idiot de laver un jour ce qu'il faudrait relaver le lendemain. J'étais fatiguée rien que d'y penser. Je voulais faire les choses une fois pour toutes et en finir avec elles pour de bon. Scène 20. La flaque de boue en lisière de l'université. Il pleut. Carl et Grace sont assis côte à côte. Grace, maintenant, est parfaitement semblable à Graham. Elle porte les vêtements de Graham. Carl porte les vêtements de Robin, c'est-à-dire ceux de Grace. Il y a deux rats. L'un grignote les plaies de Grace Graham, l'autre celle de Carl. Les mauvais jours finiront. 341, bientôt tu ouvriras la porte. 342, bientôt nous dormirons ensemble. 343, les mauvais jours finiront. At night, it was delicious. You just move right through it. I told Liz about my trip. I told her about my dream. Oh, she was fucking this boy, but wanted me to. She had these eyes that were blue and hard. Not water, but ice. Blue like a sled dog. Deceptively clear. You are a very psychic woman, she said, and told me about her boyfriend. J'écrivais des lettres à T. Sous la douleur, les mots sortaient. Je ne les lui envoyais pas. Plaçais l'enveloppe cachetée à son nom dans une boîte de bois blanc, et il venait les lire. Elles étaient à sa disposition, dans la boîte. Je les relisais contre lui, je les échangeais contre son corps, sa bave, et il m'interdisait de les déchirer. Elle s'empilait, je lui disais « Je t'ai écrit, là, en désignant la boîte qu'il allait ouvrir, pour laquelle il laissait mon corps. » Les lettres ont cessé, le cahier a pris le relais, est devenu l'endroit où il pouvait me lire, à tout moment, dans mon absence. Je lui laissais mes clés pour qu'il soit plus libre de le consulter. Maintenant, j'ouvre la boîte en public. J'ouvre le cahier et je le laisse ouvert, exposé. Je peux facilement m'imaginer mort. J'écrivais des lettres à T. Sous la douleur, les mots sortaient. Je ne les lui envoyais pas. Plaçais l'enveloppe cachetée à son nom dans une boîte de bois blanc et il venait les lire. Elles étaient à sa disposition, dans la boîte. Je les relisais contre lui, je les échangeais contre son corps, sa bave, et il m'interdisait de les déchirer. Elles s'empilaient, je lui disais « Je t'ai écrit, là, en désignant la boîte qu'il allait ouvrir, pour laquelle il laissait mon corps. » Les lettres ont cessé, le cahier a pris le relais, est devenu l'endroit où il pouvait me lire, à tout moment, dans mon absence. Je lui laissais mes clés pour qu'il soit plus libre de le consulter. Maintenant, j'ouvre la boîte en public. J'ouvre le cahier et je le laisse ouvert, exposé. Je peux facilement m'imaginer mort. Tout à coup, j'ai tellement mal au dos que je suis obligée d'arrêter d'écrire. Je pense que je vais juste fumer un pétard et dormir, mais le mal empire tellement que je suis obligée de m'allonger immédiatement. Ça pince à mort sur deux vertèbres, et je n'arrive pas à me détendre. Je pense, ils sont morts. Ils sont tous morts. Les juifs, les noirs, les pédés, les protestants, les pauvres, les fous, les innocents, les infirmes, les prisonniers, les noirs, les tahitiens, les femmes, les enfants. Je veux détruire l'ordre social. Légitime défense. It's like the world is flat, and all around the edges of it, there is a hyperspace of emotion with sadness, at its core. La vulnérabilité des choses précieuses est belle parce que la vulnérabilité est une marque d'existence. Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre où je marche, la mer que j'entends. Voir un paysage tel qu'il est quand je n'y suis pas. Quand je suis quelque part, je souille le silence du ciel et de la terre par ma respiration et le battement de mon cœur. Les eaux claires, les eaux printanières et les eaux courantes, les conditions objectives du narcissisme, les eaux amoureuses, les eaux profondes, les eaux dormantes, les eaux mortes, l'eau lourde, les eaux composées, l'eau maternelle et l'eau féminine. pureté et purification, la morale de l'eau, la suprématie de l'eau douce, l'eau violente, la parole de l'eau. 10 juillet 1980. J'ai rêvé que j'avais commencé une formation pour apprendre à changer ma vie avec une prof, d'apparence plutôt vague. Je ne suivais pas de cours, mais j'allais apprendre à transformer toute mon existence, à vivre autrement, à tout faire d'une nouvelle façon, différente. Je ne comprenais pas tout, mais je faisais confiance à cette prof aux contours indistincts. Il y avait une autre femme qui me disait qu'elle prenait un cours de craquelure du langage, le contraire de la décraquelure. Craquelure, comme pour les pierres qui se fondent et se délitent. Je trouvais ça très exaltant d'étudier la formation, les fissures et le maintien des mots. Alors je disais à la prof que moi aussi, je voudrais suivre ce cours. La prof disait d'accord, mais que ça ne m'aiderait pas du tout, parce que j'avais quelque chose d'autre à apprendre et que je ne tirerais rien de neuf de ce cours-là. Je répondais « peut-être que non », mais même si je connaissais les pierres, par cœur par exemple, ça m'intéresserait d'étudier leur composition et de donner un nom aux différents éléments dont elles sont formées. Penser que je suis tous les personnages de ce rêve est très excitant. Enfin, l'élision du « a » devant une voyelle, dans les déterminants de noms féminins, pratiquée largement à la Renaissance, se voit condamnée dans les déterminants possessifs. Là où Henri IV appelait ses blondes « mamie » ou « mamour », il faudra désormais dire « mon ami », « mon amour », mot féminin à cette époque, et donc utiliser un déterminant masculin avec des mots féminins. Les amoureux continueront malgré tout à utiliser leur expression favorite, mais sans plus la comprendre. D'où l'apparition de la graphie « mamie », littéralement « mamiette ». Et le mot « amour » continuera sa virilisation progressive. En juin 1970, un scandale éclate à l'île de la Réunion. Des milliers d'avortements sans consentement auraient été pratiqués par des médecins qui auraient prétexté des opérations bénignes pour se faire ensuite rembourser par la sécurité sociale. Ainsi, non contents d'amasser des sommes considérables, ils auraient enfreint deux lois. Celle qui interdit l'avortement et criminalise ceux qui la pratiquent est celle qui encadre les remboursements d'actes médicaux. Plusieurs femmes portent plainte, mais elles seront à peine entendues. Pendant le procès, les inculpés déclarent avoir été encouragés indirectement par les politiques antinatalistes que l'État a mises en place dans les départements d'outre-mer et directement par ses représentants sur l'île, alors que la contraception et l'avortement sont criminalisés et durement réprimés en France, et qu'à cause de cette criminalisation, 1 million de femmes risquent la mort en avortant chaque année dans des conditions déplorables. Rien n'égale la consolation qu'apporte la chanson de Piedadj, bien que les paroles évoquent des souvenirs qu'aucune n'a jamais eus. D'une vieillesse en compagnie de l'autre, de conversations partagées et de pain rompu, encore fumant. Du bonheur simple de rentrer chez soi pour être chez soi. La quiétude de revenir là où l'amour a commencé. Quand l'océan se gonfle, en lançant les rythmes des vagues vers la côte, Piedadj regarde pour voir ce qui est venu. Un autre navire, peut-être, mais différent, qui se dirige vers le port. Équipage et passagers, perdus et sauvés, tremblants, car ils ont été inconsolables pendant quelque temps. Maintenant, ils vont se reposer avant de reprendre le travail sans fin pour lequel ils ont été créés, ici-bas, au paradis. Et ils restèrent l'un contre l'autre, cachés et protégés par le bruit de la pluie. La pluie tombait au dehors, comme un mur providentiel entre eux et le monde. Vivaldo avait l'impression d'être tombé dans une déchirure du temps, d'être retourné vers l'innocence, lavé et vidé, attendant d'être rempli. Il caressa les cheveux rudes à la base du crâne d'Éric, charmé et étonné de l'amour qu'il éprouvait. Le souffle d'Éric tremblait contre les poils de sa poitrine. De temps en temps, il effleurait Vivaldo de ses lèvres. Cette profusion, cette chaleur alourdissait Vivaldo. Elle le faisait somnoler. Il commença lentement à repartir à la dérive vers le sommeil. Des rayons de lumière jouaient dans son crâne, derrière ses yeux, comme le soleil.